Pharaon Stone. Alors effectivement, comme vient d'expliquer Ingeborg à l'instant, s'il y a bien un parallèle entre Pharaon Stone et Battle of Moritz, c'est qu'on est en phase de BD qui sont considérés comme primes aux tiers, comme tout à fait destinés aux enfants. C'est quelque chose qui est véritablement quelque chose qui relève du monde de l'enfance, à tel point que Pharaon Stone, c'est quelque chose que tous les enfants en Allemagne lisent, ont lu et liront. Enfin, c'est vraiment la BD qu'on met dans les mains de tous les enfants, de façon considérée que c'est enfantin, à tel point d'ailleurs que quand on fait des cours d'allemand langue étrangère, classiquement, on fait commenter aux élèves Pharaon Stone en se disant que c'est d'une innocence et d'une pureté absolument angélique. Voilà, sauf que comme disait Ingeborg, Max Moritz, c'est à double tranchant, ça s'adresse aux adultes et ça peut être extrêmement violent. Mais c'est précisément ce que j'aimerais vous expliquer au sujet de Pharaon Stone, c'est que derrière les dessous extrêmement légers, c'est quelque chose qui est en fait extrêmement grave. Ce qu'on comprend très rapidement quand on connaît le contexte, alors pour vous introduire au contexte de Pharaon Stone, il suffit déjà de dire qui est l'auteur. L'auteur, c'est E.O. Plauen. Alors pourquoi c'est E.O. Plauen? Vous remarquerez que c'était écrit en minuscule pour le coup. C'est que le E.O., en fait, c'est-à-dire Erich Ossa. Et pourquoi est-ce que l'auteur ne se présente pas sous son nom? C'est justement, ça vous introduit tout de suite dans le monde de la BD, c'est que Erich Ossa était au départ, en fait, un caricaturiste de la République de Weimar et un caricaturiste, pardon, social-démocrate extrêmement virulent, et qui va publier Pharaon Stone à quelle époque, bien entendu, entre 34 et 37, donc sous le Troisième Reich. Et c'est précisément, il est obligé de prendre un pseudonyme pour pouvoir publier, parce qu'en fait, le Troisième Reich a besoin d'amuser la galerie, très sincèrement. Très récemment, il y a un auteur, Vincent Platini, qui a écrit un très beau livre sur la question, où il explique qu'on s'amuse beaucoup sous le Troisième Reich. Et c'est justement là-dessus que je vais vous parler de Ossa et de Pharaon Stone et essayer d'apporter un jour nouveau. Sous le Troisième Reich, on s'amuse beaucoup, mais le quotidien est tellement sombre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. La propagande est tout à fait consciente du fait qu'il faut amuser, qu'il faut que les gens s'aèrent l'esprit. Et certains artistes, justement, vont trouver des schlupfles, hein, ils vont trouver des brèches dans lesquelles s'infiltrer pour faire passer un message peut-être un peu plus dissonant et un peu plus critique précisément, et c'est ça Pharaon Stone pour moi. Pharaon Stone, au-delà de l'image tout à fait idyllique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la critique, qui est de l'ordre de l'amertume, qui est de l'ordre de la tendresse. Justement, c'est une œuvre qui est justement très duplice en fait, hein, et justement due à en rapport avec les conditions de production. Donc comme je vous disais, E.O. Plauen est un pseudonyme, c'est quelque chose qui est très attachant sur l'auteur. Et c'est un auteur qui est attachant, puisque bon, vous en serez douté, hein, Pharaon Stone, E.O. Plauen est un père, Erich Ossa, le père de Christian Ossa, le père d'un petit garçon, et en fait il raconte, en fait, c'est très inspiré de sa vie, c'est très autobiographique. Mais pourquoi est-ce qu'il choisit de s'appeler Plauen? Tout simplement parce qu'il vient d'un village de Saxe qui s'appelle Plauen. Donc c'est quelqu'un qui reste attaché à ses racines, c'est quelqu'un qui reste attaché à la région d'où il vient, à sa Saxe natale, d'accord, et qui va du coup choisir ce pseudonyme quand on va lui dire « Ok, tu veux publier, tu as besoin de vivre, donc tu vas publier parce qu'on a besoin de talent. » D'accord, la Berliner Illustrierte, le journal qui l'embauche et qui lui accorde de publier sous la condition de ne pas se faire connaître comme le caricaturiste extrêmement virulent, j'y reviendrai quelque peu, qu'il était. Erich Ossa, c'était un nom réputé, hein, c'est comme si je vous disais aujourd'hui Cabu. Enfin, il était quand même réputé pour la virulence de ses caricatures. C'était le caricaturiste en vue, donc il ne pouvait pas le publier, Pharaon Stone, voilà, il fallait que ce soit complètement gommé. Donc on lui dit, ok, tu vas avoir le droit de publier, parce que c'était un caricaturiste extraordinaire, c'était quelqu'un qui avait un talent. Et Kust Beat, le directeur de la Berliner Illustrierte, qui cherchait quelqu'un pour faire sur le mode américain, justement des strips, voilà, où on essaye chaque semaine d'apporter une nouvelle aventure, avec ce qu'on appelle les Jetés de Fuguan, toujours les mêmes personnes qui reviennent. Donc sur le mode américain, Kusenberg cherchait depuis un moment déjà, il avait fait un appel à candidature, 25 personnes, et tout le monde avait échoué, n'était pas arrivé à trouver le talent qu'il recherchait, jusqu'à ce qu'on lui parle d'Erich Ossa, et qu'il se dise, bon, je vais quand même essayer de le prendre, et c'est vraiment lui qui a répondu à la commande. Mais évidemment, donc comme je le disais, on est sous le Troisième Reich, il faut amuser, mais il faut une bande dessinée, il y avait deux conditions. Le pseudonyme est quelque chose de purement apolitique, d'accord. Et c'est ce qui est resté justement, ce qui est passé à la prospérité dans Pharaon Stone, c'est que c'est une BD complètement apolitique. Alors, pour situer l'action, enfin l'action, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'action, pour situer le cadre narratif de Fatal Zone, c'est tout simplement sont les aventures d'un père et de son fils. Voilà. Chaque strip va donner l'histoire d'un père et de son fils. Alors, au début, ce sont des histoires qui sont à chaque fois, un peu comme les gags de Boule et Bill, complètement séparées les uns des autres. Et par la suite, ça va prendre une forme plus linéaire où on va suivre l'histoire du père et du fils qui vont devenir très riches. La richesse ne leur rapportera pas que le bonheur, ils vont se retrouver comme Robinson sur une île jusqu'au moment où ils vont partir. Donc, ce qu'on a beaucoup retenu de Fatal Zone, c'est le caractère extrêmement tendre. En fait, c'est vraiment l'histoire d'un père très. Alors, qui peut être à la fois extrêmement. Qui peut être assez sévère, qui essaye d'éduquer son fils, donc de lui expliquer ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais toujours avec énormément de tendresse, voire éventuellement, c'est le père qui va être plus espiègle et plus polisson finalement que son propre fils, par exemple. Alors, pour vous donner. Alors, c'est justement, c'est toujours cette relation très. Qui va dans les deux sens. Donc, tu parlais effectivement du caractère, enfin, de la pédagogie patriarcale qu'on retrouve facilement chez Bush ou chez Hoffman. Au contraire, Oza prend, enfin, et O'Plowen, prend distance, justement, il prend ses distances avec cette pédagogie patriarcale. Il est le premier à la critiquer. D'ailleurs, typiquement, il y a. On le voit qu'il lit un livre, il est extrêmement occupé dans sa lecture, puis son fils, toujours occupé à faire le pitre, qui a besoin que son père s'occupe de lui. Et à un moment, le père s'énerve, il lui lance le livre contre son fils, et puis là, on voit le titre du livre, c'est Éduquer sans violence. Voilà. Donc le gamin est en train de prendre le livre dans la figure. Voilà. Et donc, il y a toujours il y a énormément de. Il y a une critique, en fait. Alors, critique du maître d'école, aussi, le premier strip, précisément, c'est l'enfant qui planche sur un travail, puis qui n'y arrive absolument pas, c'est de l'arithmétique. Le père se met avec lui, puis tendrement fait le devoir du fils. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le maître d'école arrive avec le fils qu'il tient par la main et lui vient donner la fessée au père qui n'a pas su faire l'exercice. Donc on est vraiment, on sait jamais vraiment qui est le père, qui est le fils. Enfin, je veux dire, entre le père et le fils, on sait toujours lequel est lequel, mais on sait jamais lequel est le plus polisson, lequel est le plus espiègle, lequel est le plus mûr et le plus adulte, en fait. Hein. L'adulte n'est pas toujours celui qu'on croit dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que il y a quelque chose qui est complètement intemporel dans les relations père-fils et qui a pu donner le sentiment, et c'est là que Plan a réussi, enfin, et au Plan, donc il réussit, ça, quelque chose d'assez extraordinaire, c'est de faire passer un message qui paraît tellement intemporel, qui peut parler à chacun, parce que si on n'a pas été père ou mère, ben, on a été fils ou fille, ça nécessairement. Donc, chacun se retrouve dans ses relations filiales. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans cette BD, et c'est là que c'est une BD, que c'est un art, c'est que c'est pas uniquement du divertissement, c'est qu'il y a un message qui va bien au-delà de la simple anecdote expliquée dans chaque strip, c'est qu'il y a une portée beaucoup plus politique, en fait. Alors, forcément gommée, parce que comme je vous le disais, quand on écrit sous la censure, on va pas arriver avec une grande affiche pour dire qu'on a une profonde haine du régime. C'est un peu difficile. Donc ça va se faire de manière extrêmement subtile. Mais ce qu'on peut observer, il y a deux choses qui permettent de se dire qu'il y a effectivement une évolution politique dans cette BD. C'est d'une part, il y a des allusions qui sont quand même assez marquées sur une vision pessimiste de l'histoire, sur une vision assez pessimiste de la vie. Pour vous donner quelques exemples, alors il y a celui de la grenouille. Alors le père et le fils ont ramené une grenouille, elle est dans son bocal, ils sont ravis. Passe un héron qui chope la grenouille et qui la mange. Déjà, tout de suite, c'est un peu plus dysphorique, hein, pour ce qui est du côté primesautier, vous me direz. Voilà. Et bien sûr, le héron part, et bien sûr, en lâchant une fiente dans le bocal, qui dit très bien ce que va devenir la grenouille. Donc, pour ce qui est de quelque chose d'innocent et de pur, on voit déjà, c'est plus dysphorique. Après, il y a des allusions qui sont plus politiques, justement. Il y a, par exemple, le jour où l'enfant joue avec ses spaghettis, son père, dans un rôle d'éducateur, l'emmène au musée des Beaux-Arts pour lui présenter la statue de Laocoon. Quand on sait que Laocoon a été, en fait, finalement, dévoré par les serpents avec ses fils pour avoir voulu prévenir les Troyens de la ruse du cheval de Troie qui voyait venir, en fait, on n'a pas voulu le croire. Je me dis, tiens, publier ça sous le Troisième Reich, est-ce que c'est complètement innocent? Est-ce que c'est qu'une histoire de faire le rapport entre les serpents de Laocoon et la scène de spaghetti avec laquelle joue l'enfant? De la part de quelqu'un qui est un caricaturiste extrêmement. Avec un œil très aiguisé, qui puisse s'amuser à faire ce genre d'allusion sans qu'il. Enfin, que ça ne soit pas une allusion, j'ai du mal à le croire. Autre exemple, hein, c'est un marin offre au fils un poisson rouge. Le fils emmène le poisson rouge avec son père, ils sont ravis. Et puis il l'emmène à la maison, puis il le nourrit. Puis le poisson rouge grandit, et puis après il finit dans la baignoire. Et puis après, c'est carrément une baleine qui fait exploser la maison. Pareil, quand on est sous le Troisième Reich et qu'on pense à un petit parti qu'on appelle la NSDAP, qui a quand même grossi sans que personne s'en méfie jusqu'à finalement faire éclater le pays, est-ce qu'on ne peut pas y voir une allusion quand même extrêmement fine, mais pour autant une allusion? Voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire que cette BD, si on commence à regarder sous un autre angle, Fatal Zone, et qu'on accepte de se détacher du côté purement, finalement, enfant, de la relation du père et du fils, et d'y voir quelque chose de plus politique, on voit que perce à travers la BD énormément de messages, en fait, extrêmement politiques. D'accord? Et après, ce qui confirme ces lectures sur des strips séparés, c'est l'évolution à la fin de la BD. Alors, je vous le passe très vite, parce que sinon ça va être trop long, mais c'est qu'à la fin de la BD, le père et le fils gagnent au loto, deviennent très riches. Et partent en voyage, ils veulent aider quelqu'un, ils croient que quelqu'un se noie parce qu'ils voient une main au fin fond de l'océan. En fait, d'une main, c'est juste un panneau indicateur avec un pouce, voilà. Sauf que le bateau est parti, donc ils se retrouvent comme des Robinson Crusoe. Voilà. Et leurs aventures sur leur île vont être extrêmement dysphoriques. Encore une fois, on n'est pas sûr, c'est pas l'idylle jamaïcaine, hein. C'est véritablement, ils connaissent la faim, ils connaissent la peur, ils connaissent les fauves, et on voit que finalement tout ça est très dysphorique. Ils étaient très riches, et c'est ce qui va leur apporter finalement la ruine. Enfin, vous voyez que c'est quand même un monde beaucoup plus complexe que celui qu'on a bien voulu montrer. Toujours est-il que, bon, bah, Eric Rosa a publié pour le journal Berliner Illustrierte sous la censure parce qu'il fallait gagner sa vie. Il se trouve qu'il l'a extrêmement bien gagné. Qu'il l'a extrêmement bien gagné, qu'il est devenu extrêmement célèbre. Fatal Zone est devenu, déjà sous le Troisième Reich, une figure extrêmement célèbre, à tel point qu'il y avait des billets de loterie qui étaient édités, on faisait des galas de charité au nom de Fatal Zone. Enfin, c'est devenu l'objet commercial par excellence. Erich Rosa a très bien senti la récupération idéologique qui était en train de se faire de son œuvre. Ça servait finalement à égayer la galerie pour faire oublier les vicissitudes du quotidien. Donc là, ça l'a quand même, c'était plus possible. Et c'est pour ça qu'à la fin, effectivement, Fatal Zone vont partir. Hein, ils disent adieu et ils s'en vont. Donc il a mis fin à sa propre BD. Il avait néanmoins besoin de vivre. Il est redevenu caricaturiste. Il est redevenu caricaturiste. Alors, il a essayé de s'expliquer de ce revirement, puisqu'il va caricaturer pour le journal Das Reich. Donc, rien que le titre du journal vous indique qu'il n'était pas très suspect d'être critique du régime. Alors, il critique l'URSS, il critique le Royaume-Uni, particulièrement les États-Unis, en disant, mais je travaille comme patriote. Je ne suis pas pour les nazis, je travaille comme patriote. Donc, il essaye de trouver finalement le chemin, la troisième voie, quoi, qui va lui permettre de s'en tirer. Bon, après, ce qui va lui jouer, ce qui va lui coûter la vie, en fait, hein. Chose qui est intéressante, il était dur d'oreille. Est-ce que c'est pour ça que ces BD sont aussi muettes? On pourra revenir sur la question du langage dans le strip, parce que c'est souvent, j'oublie de le dire, mais des strips muets. Mais il a parlé un peu fort dans son appartement avec son ami Erich Knauf de ce qu'il pensait du régime. Et il avait un voisin qui était extrêmement zélé et qui, bien sûr, s'est fait un plaisir de le dénoncer. Donc, Erich Knauf et Erich Rosa ont été arrêtés en 40. Alors, voilà, la date me manque, c'est 44. Arrêtés. Et Erich Rosa, en fait, s'est suicidé dans sa cellule avant un procès qu'il savait de toute façon perdu d'avance. Mais il a payé pour ses idées, puisque, et entre autres, Goebbels l'attendait au tournant, parce qu'il avait fait, justement, à son époque de caricaturiste dans le Four Verts, donc l'organe vraiment de la social-démocratie. Il avait fait des caricatures de Goebbels où il appelait Goebbels et où il se moquait finalement de la démarche. Il claudiquait, il boitait la démarche claudiquante de Goebbels. Enfin, il avait, pour vous donner aussi un exemple, là, pour vous dire que ça a été quand même un caricaturiste extrêmement virulent contre la NSDAP, il avait fait une caricature d'Instampfolk, donc service rendu au peuple, où un homme urine dans la neige, et en urinant, qu'est-ce qu'il fait? Avec le jet d'urine, il dessine la croix gammée. Voilà, donc c'était pour vous dire, quand je vous disais qu'il avait été un caricaturiste extrêmement sévère, c'était véritablement un. Et c'est ce qui lui a finalement coûté la vie. Voilà. Mais je pense que ceci rend hommage donc à Erich Rosa et au courage qui a été le sien aussi de. Parce que c'est un homme qui a eu un courage politique, qui a été obligé de s'adapter pour faire vivre sa famille, mais qui a su arrêter quand il a vu qu'on était en train de récupérer son œuvre. Il s'est suicidé justement en déchargeant son ami Erich Knopf qui a été arrêté en même temps que lui, ce qui n'évitera pas à Erich Knopf d'être exécuté du reste. Donc c'est aussi reconnaître le courage de cet homme et lui rendre hommage que de dire que, justement, on peut voir Fatal Zone non pas seulement comme une petite BD pour enfants et qui est juste une BD temps. Il y a beaucoup de tendresse, mais il y a énormément aussi de courage politique et finalement une vision du monde qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus sombre, beaucoup plus mûr que celle qu'on a bien voulu voir. Voilà. Donc ce serait lui rendre justice aujourd'hui que de reconnaître cette complexité de son œuvre.